Une des histoires les plus connues dans le monde est certainement celle de Jonas, qui fut englouti par un gros poisson. Elle est rapportée dans le livre de Jonas, qui fait partie de l'Ancien Testament. Nous l'étudierons aujourd'hui ainsi que celle de Michée, un autre livre prophétique de la Bible. Cette série d'études bibliques vous est offerte par l'Association des étudiants de la Bible Aurore, éditeur de la publication mensuelle de la revue Aurore. Veuillez en parler à vos amis et invitez-les à se joindre à votre cercle d'auditeurs.
Merci Thomas. En considérant notre étude des différents livres de la Bible, le livre des livres devient de plus en plus intéressant, ne trouves-tu pas?
Certainement, Pierre. En lisant le livre de Jonas, quelques questions se sont présentées à mon esprit, et j'aimerais en avoir une réponse. Dans son ensemble, le livre est facile à comprendre. Il se présente comme une histoire. Jonas, un prophète de Dieu, fut chargé de se rendre à la ville de Ninive, habitée par des païens méchants, pour les avertir qu'une destruction menaçait leur ville, une calamité venant sur eux à cause de leurs péchés.
Mais Jonas fut mal disposé et hésita à obéir.
C'est juste. Il s'embarqua sur un navire qui devait l'emmener dans une autre direction, mais Dieu intervint. Une tempête s'éleva sur la mer et les marins soupçonnèrent Jonas et son Dieu d'être responsables de la tempête qui menaça de détruire leur navire et résolurent de jeter le prophète par-dessus bord.
Mais à nouveau, Dieu intervint. Il fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et 3 jours plus tard, Jonas fut rejeté par le poisson sur le bord de la mer près de Ninive. Ceci est un des miracles de la Bible qu'il faut accepter par la foi. La Bible ne signifie rien pour nous si nous ne croyons pas au miracle de la résurrection des morts.
C'est très vrai, Pierre. Mais les incroyants sont prompts à attirer notre attention sur le fait que le gosier d'une baleine n'est pas assez grand pour avaler un homme.
Le récit rapporte que l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Des monstres marins ont été découverts ayant un gosier assez ample pour avaler un homme.
Bien. Mais voici un autre point que les sceptiques acceptent plus difficilement. Jonas était un étranger pour les Ninivites. Il adorait un dieu différent du leur. L'histoire nous dit qu'aussitôt qu'il leur eut fait connaître son message, ils se repentirent et leur ville ne fut pas détruite. Pour quelle raison ces païens avaient-ils un si profond respect pour ce prophète de Jéhovah, qui était malgré tout un étranger pour eux?
Des archéologues ont trouvé la réponse à cette question. En mettant à jour les ruines de l'ancienne ville de Ninive, ils ont découvert que ses habitants adoraient un dieu poisson. Ainsi, le fait que Jonas leur fût amené par un poisson a été considéré par eux comme un porte-parole de leur dieu.
C'est très intéressant, Pierre. Il se peut aussi qu'ils aient vu en Jonas un messager de leur dieu, et c'est pour cela qu'ils ont eu un si grand respect pour lui.
C'est possible. Et quelle que soit l'opinion que nous ayons à ce sujet, nous savons que les habitants de Ninive furent prompts à se repentir lorsque Jonas leur eut délivré le message de Jéhovah.
J'ai encore une autre question à poser, Pierre. Décrivant son expérience dans le ventre du grand poisson, Jonas dit « Du sein du séjour des morts, j'ai crié et l'Éternel a entendu ma voix. » Voici encore un autre message de l'expression « séjour des morts » différent de ceux que nous avons rencontrés dans l'Ancien Testament. Quelle est sa signification?
Le terme « séjour des morts » ou « enfer » est une traduction du mot « shéol » et signifie l'état ou la condition de mort. Symboliquement, Jonas se trouva dans l'état de mort, ou considéré comme tel, et il serait mort si l'Éternel ne l'avait délivré. Nous en apprendrons davantage en étudiant les enseignements de Jésus. Je veux seulement dire ici que Jésus se rapporta à l'expérience de Jonas, qui représentait le temps que lui-même passa dans l'état de mort dans l'enfer de la Bible.
La libération de Jonas du ventre du grand poisson représenterait alors la résurrection.
Oui, c'est cela.
Pierre, en lisant le livre de Jonas, je fus impressionné par le fait qu'alors Dieu chargea Jonas d'avertir les Ninivites de son intention de détruire Ninive, mais qu'il se repentit de la punition qu'il avait résolu de leur infliger, et Jonas, bien sûr, en fut irrité.
C'est une bonne illustration de l'amour et de la miséricorde divine qui dépassent les nôtres. Nous sommes enclins à réduire l'amour de Dieu aux limites du nôtre qui est si restreint. À travers les âges, cette imperfection humaine a amené de sérieuses erreurs dans l'interprétation de la Bible et du plan divin pour le salut de l'humanité qu'elle révèle. L'une d'elles a été l'idée que cette opportunité pour le salut est limité à notre courte vie imparfaite.
Il est bon de réaliser que le vrai Dieu de la Bible est un Dieu d'amour et de miséricorde. Je remarque, Pierre, que le livre qui suit le livre de Jonas dans l'Ancien Testament est celui de Michée. Comme la plupart des autres prophètes, il met Israël en garde contre ses péchés et annonce la captivité de la nation à Babylone.
C'est exact. Les prophètes de l'Ancien Testament consacrent la plupart de leurs écrits aux événements de leur jour. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont l'impression qu'ils n'ont pas de message pour nous. Aucun message qui aurait une importance vitale pour notre temps de détresse et de chaos mondial. Mais nous avons découvert au cours de nos études des divers livres de l'Ancien Testament que Dieu s'est servi de tous ses prophètes pour annoncer l'un et l'autre des événements futurs de son plan qui doivent s'accomplir dans un temps plus ou moins rapproché. La valeur réelle de l'étude de la Bible est de découvrir ses perles de vérité. Le prophète Michée, par exemple, fut l'instrument dont l'Éternel se servit pour prédire l'endroit exact où devait naître le Messie. Cette prophétie se trouve au chapitre 5.
Pierre, j'aimerais lire ce passage. Ce chapitre 5, verset 1, dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. »
C'est en accomplissement de cette prophétie que Jésus naquit dans la ville de Bethléem. Au chapitre 4, verset 8, Michée rapporte une autre prophétie concernant la venue du Messie.
Je vais lire également. « Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination. » Pierre, que signifie l'expression « ancienne domination » ?
L'ancienne domination est celle qui fut donnée à Adam et Ève. Tu te souviens que nous avons appris au cours de l'étude du livre de la Genèse que le Créateur donna à nos premiers parents la domination sur la terre. Nous avons appris aussi que, par le péché, ils perdirent le bénéfice de cette domination. Jésus, par son œuvre de rédemption, acquit le droit à cette domination et en fera de nouveau bénéficier la race humaine pendant son règne millénaire. Alors, les hommes obéiront aux lois du royaume de Christ.
Autrement dit, l'allusion de Michée à la restauration de l'ancienne domination est une des faces de la promesse de délivrance du péché et de la mort, dont les traits se trouvent marqués dans la Bible entière.
C'est très juste. Nous avons appris par l'Ancien Testament que l'œuvre du sacrifice de Christ, le Rédempteur, était nécessaire pour ouvrir le chemin à la restauration de l'homme et pour lui rendre la domination sur la terre. Les prophéties de l'Ancien Testament révèlent également que des représentants du royaume messianique participeront à l'œuvre de restauration.
Pierre, je crois que le royaume de Christ ou de Messie est parfois illustré dans l'Ancien Testament comme une montagne, la montagne de l'Éternel.
C'est exact. Le prophète Ésaïe parle de la montagne de l'Éternel et dit que l'Éternel prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. Et aussi, sur cette montagne, il anéantit la mort pour toujours.
J'ai posé cette question parce qu'au quatrième chapitre de Michée, la montagne de l'Éternel est à nouveau citée. Et le prophète déclare que cette montagne au royaume sera établie dans les derniers jours.
Non pas au dernier jour des temps, ni à la fin de l'expérience humaine, mais au dernier jour du règne du péché et de la mort se trouve une transition, une période pendant laquelle les royaumes de ce monde seront remplacés par le royaume de Christ. Je pense, Thomas, qu'il serait bon de lire la prophétie de Michée concernant la montagne de l'Éternel, ou royaume établi sur la terre dans la suite des temps.
Je suis heureux de le faire. Elle commence par le verset 1 du chapitre 4. « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera au-dessus des collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. » Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes lointaines. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpents. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Chacun habitera sous sa vigne et sous son figuier et il n'y aura personne pour les troubler car la bouche de l'Éternel des armées a parlé.
Thomas, cette prophétie est une des plus remarquables de l'Ancien Testament.
Je suis d'accord, Pierre, mais je pense justement à cette prophétie de Joël, où celui-ci prédit le temps pendant lequel les nations forgent de leurs royaux des lances et de leurs serpes des épées. Cela semble bien s'appliquer à nos jours, ne crois-tu pas?
Oui, c'est exact. Pourtant, les dieux de prophétie s'appliquent au jour du Seigneur. Nous sommes maintenant les témoins du rassemblement des nations prédit par Joël. Dans peu de temps, pourtant, les peuples et nations de la terre découvriront qu'elles ont complètement échoué dans leurs efforts pour le règlement des problèmes sociaux et mondiaux. C'est alors qu'ils reconnaîtront avoir besoin de l'aide et de la direction divine et diront, comme le prédit le prophète Michée, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. »
C'est alors, Pierre, que lorsque les hommes apprendront à connaître les voies de l'Éternel, ils forgeront de leurs glaives des hoyaux et de leurs lances des serpes, et ils n'apprendront plus la guerre. Alors le monde aura réellement la paix, n'est-ce pas?
Oui, et avec elle viendra l'affranchissement de la peur, car l'Éternel déclare qu'il n'y aura personne pour les troubler. Thomas, telle est la promesse de Dieu, et nous pouvons avoir entière confiance dans son accomplissement. Et maintenant, voudrais-tu parler à nos auditeurs de l'article « La puissance victorieuse du royaume » ?
Oui, Pierre, avec plaisir. Chers amis, c'est la dernière fois que la revue Aurore contenant l'article « La puissance victorieuse du royaume » est offerte. Demandez un exemplaire gratuit. « La puissance victorieuse du royaume » est le troisième article d'une série d'études des 70 livres de la Bible qui retracent les principaux thèmes de vérité qu'ils contiennent. Les livres de Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas et Michée sont étudiés dans le sujet « La puissance victorieuse du royaume ». Ces livres de la Bible contiennent des prophéties se rapportant à nos jours et au futur proche et éloigné. Ils contiennent également des sujets importants sur les questions suivantes. Où sont nos morts, espérance au-delà de la tombe et l'enfer de la Bible? Jonas dit qu'il a passé 3 jours dans l'enfer. Que veut dire Jonas? Par le prophète Osée, l'Éternel nous assure de son intention de détruire l'enfer. Le prophète Michée décrit un temps où les humains transformeront les épées en hoyaux et les lances en serpes. Le prophète Joël prédit le rassemblement d'Israël dans le pays promis. Oui, tous ces faits intéressants et bien d'autres sont éclaircis dans l'article « La puissance victorieuse du royaume ».
Demandez le petit livre « Royaume ». Demandez simplement « Royaume ». Ce petit livre vous sera envoyé gratuitement et franco de port. Cette étude de la Bible vous a été présentée par l'Association des étudiants de la Bible Aurore qui publie la revue Aurore en coopération avec les groupes d'études de la Bible et leurs amis de partout.